France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Ce jour-là, à 22h36, alors que 30 000 personnes sont réunies sur la promenade des Anglais, un camion de 19 tonnes fonce tout phare éteint sur la foule. 4 minutes et 17 secondes plus tard, le bilan est terrible. 86 morts, dont 15 mineurs, 458 blessés, des milliers de traumatisés et une ville meurtrie. Tué par la police, le responsable de ce carnage est très vite identifié. Il s'appelle Mohamed Laouyej Boulel. Mais le profil de ce chauffeur-livreur de 31 ans étonne les autorités. Petit délinquant de droit commun, fêtard amateur d'alcool et de sexe, Boulel n'a jamais été sous les radars des services antiterroristes. Plus étrange encore, il se serait radicalisé en un temps record, 15 jours. Peut-on vraiment basculer dans le terrorisme en 2 semaines? Et comment un homme aussi peu entraîné a-t-il pu faire autant de dégâts? A-t-il eu des complices? Et surtout, le dispositif de sécurité était-il suffisant? Nous invitons aujourd'hui David Di Giacomo et Marco Steve, journalistes, auteurs et autrices d'un podcast pour l'un et d'une série d'articles pour l'autre. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Guillaume Balandras, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Juillet 2016, 21h30, nuit d'été à Nice, magnifique douceur, comme d'habitude, dans cette ville avantageusement placée sur la carte de France. Sur les hauteurs de la ville, route de Turin, un homme vêtu d'un jogging noir sort de son immeuble, puis grimpe sur son VTT. Après quelques coups de pédale, il se laisse glisser sur la pente, direction front de mer. Les rues désertes défilent, l'air chaud lui fouette le visage, mais son regard est noir. Ce soir, il est en mission. Après quelques minutes, il arrive dans une ruelle de l'est de la ville et s'arrête au niveau d'un gros camion blanc garé là, un Renault Milum de 19 tonnes. Calmement, l'homme charge son vélo à l'arrière, puis grimpe dans la cabine. Ensuite, il pose un pistolet 7.65 dans le vide-poche, puis démarre. Désormais, il lui faut se fondre dans la masse. Cette soirée n'a rien d'ordinaire. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues sur la promenade des Anglais pour célébrer le 14 juillet.
Avancez, avancez, s'il vous plaît. Bonjour, avancez.
Alors, please, enlevez, please. Non, là, ici. À fond.
Il faudra juste retirer les sacs à main le temps du contrôle, s'il vous plaît, tout ce qui est métallique des poches, et on va un peu vers la droite, s'il vous plaît.
La prom, comme on l'appelle ici, c'est la colonne vertébrale de la ville. Vaste avenue courbe qui épouse le littoral, cette baie des anges, comme on l'appelle, peut attirer un monstre. On le verra. En tout cas, c'est sur la prom et son négresco qu'on célèbre et qu'on communie. Elle est à la fois l'aimant, cette prom qui attire les badauds, et la dernière frontière, là où la ville se dresse, face à l'immensité de la mer. Et aujourd'hui, comme tous les 14 juillet, la prom est le centre des célébrations. Une demi-heure plus tard, à 22h, depuis un ponton aménagé pour l'occasion, une salve de fusées s'envole à la verticale avant d'exploser en rosace multicolore. Le ciel d'encre s'illumine et le clapotis des vagues scintille. Bienvenue à Nice. Voilà pour le décor. Entre les palmiers et les façades Belle Époque, une foule compacte profite du spectacle. Familles niçoises, voisins italiens et provençaux, ou encore touristes du bout du monde, en tout, ils sont près de 30 000 plongés dans le noir, la tête penchée vers l'arrière, ou le téléphone braqué vers le ciel, à communier devant ce spectacle quasi rituel. Plantée au milieu de la foule, au niveau du palais de la Méditerranée, la petite Kenza alterne entre l'émerveillement et la peur. À tout juste 4 ans, elle assiste pour la première fois à un feu d'artifice. À chaque déflagration, elle serre la main de sa mère un peu plus fort. Quelques mètres plus loin, Patrick, lui, affiche une mine sereine. Cheveux longs en bataille et chemise en jean, ce niçois de 40 ans est un fidèle du rendez-vous. Il vient ici tous les ans depuis qu'il est en âge de marcher. Dans un petit groupe à côté, Adélaïde, une touriste australienne de 23 ans, plaisante avec ses amis. Avec sa pinte de bière à la main et sa robe à paillettes, la jeune femme rayonne. C'est son premier voyage en Europe et elle compte profiter de chaque instant. Derrière eux, Magali, une policière municipale, se faufile lentement entre les spectateurs. Vêtue de son uniforme repassé, Six Hour 9 mm à la ceinture, elle promène son regard attentif sur le public. Entre les étudiants hilares installés en contrebas sur la plage de Galets, d'autres qui flirtent sur les mêmes galets, les pickpockets en repérage ou encore les fêtards titubants sous la pergola, ça en fait du monde à surveiller. Bloqué à la circulation sur toute sa partie sud, soit plus de 3 km, la promenade des Anglais est accessible aux piétons par quelques barrages légers, à l'image de celui de l'intersection avec le boulevard Gambetta. Là, seule une voiture de police avec deux agents à bord est présente, ainsi que quelques barrières de foule et un séparateur de voies. En tout, ils sont environ 250 fonctionnaires déployés sur toute la ville pour la soirée. Une chose est certaine, en cet été 2016, un an et demi après l'attentat contre Charlie et 8 mois après le 13 novembre, la menace terroriste plane et le pays est encore sous le coup de l'état d'urgence.
Le dispositif, comme les années précédentes, il est organisé en 4 cercles concentriques. Nous avons 2 compagnies républicaines de sécurité classiques, une section de la CRS Nouvelle Génération 81, d'accord, en plus pour faire de l'antiterror. Donc demain, sur Nice, c'est 250 policiers qui sont mobilisés.
Pour se protéger, la ville peut également compter sur ses 1500 caméras de surveillance. Au commissariat central, derrière les moniteurs, une policière municipale supervise le dispositif. Elle s'appelle Sandra Bertin. Joystick en main, la jeune femme fait zoomer les caméras sur chaque comportement suspect. Sur l'un de ses écrans, peut-être aperçoit-elle ce camion blanc là qui roule au pas en direction de l'entrée de la zone piétonne. À moins qu'elle n'observe ce couple qui virevolte en scooter, Franck et sa compagne. Eux ne sont pas là pour le feu d'artifice, non, ces 2 quadragénaires, niçois, filent vers le cours Saleya pour aller manger une glace. Et quand ils arrivent sur la prom, vers 22h30, le bouquet final vient tout juste de commencer. La ville entière, ou presque, regarde les étoiles. Dans un immense fracas, une gerbe de paillettes déchire le ciel. Ensuite, la fête, la vraie, peut commencer. Sur les scènes disposées le long du trottoir, les musiciens plaquent leurs premiers accords et les familles se mettent à danser. Il est 22h36, la nuit s'annonce magique. À 22h50, bord de mer. Sur les scènes musicales, les guitares se sont tues. Un quart d'heure plus tôt, le camion blanc de l'homme en noir a franchi le barrage, éteint ses phares, pris de la vitesse sur la partie moins fréquentée avant de tout faucher. 19 tonnes lancées dans la foule à 90 km/h, un carnage, un attentat, et depuis, le temps s'est arrêté. En 1 minute à peine, des milliers de gens ont fui dans les bars, sur la plage ou dans les ruelles du Vieux-Nice. Maintenant, seul le bruit des vagues et le vent froid qui secoue les palmiers donne à la scène un semblant de vie. Comme le racontera l'un des témoins, Thierry Vimal, des années plus tard, c'est la prom du plein hiver, avec un élément supplémentaire qui change tout. Ici, la mort est partout.
C'est pas possible, comment ils sont plus 15 ans, comment c'est possible? Les gens, ils sont sortis. Il y a des cadavres de partout, jusqu'à là-bas. C'est horrible.
Répartis sur le trottoir et la chaussée, de nombreux corps gisent, étendus. Des blessés, des gens à l'agonie et des morts. Beaucoup de morts. 40, 50, peut-être même 100. Difficile à dire. Autour des victimes, des petits groupes de survivants se sont formés. Des proches surtout. Certains sanglotent agenouillés en agrippant une main inerte ou en improvisant une prière, alors que d'autres tentent des massages cardiaques désespérés. Malgré l'infinie violence qui s'est abattue sur la rue, tous les gens présents, y compris les blessés, sont étonnamment calmes. Sidérés en vérité. Parmi les blessés, on trouve la mère de la petite Kenza. Au moment où le camion a déboulé, celle-ci a été prise d'un réflexe maternel. Elle a plaqué sa fille au sol avant de la recouvrir de tout son corps. Grâce à sa position, la trentenaire n'est que légèrement blessée. Blottie dans ses bras, sa petite fille est indemne, mais en état de sidération.
Kenza me dit « Maman, il y a un camion ». Et en fait, je la plaque au sol et je me couche sur elle. On est dans le noir, j'entends un gros bruit. Ce bruit, en fait, c'est comme si les stores d'un rideau de magasin se baissaient et en fer. Et je vois juste que le camion repart devant moi. J'entends une voix comme ça, « Maman, tu saignes, maman, tu saignes ». Et en fait, c'est là que je me souviens que ma fille est couchée sous moi. Elle me regarde en état de choc et elle tremble.
Après avoir évité Kenza et sa mère, le camion blanc percute le dos d'Adélaïde, la touriste australienne, sans qu'elle ne voit rien venir. Désormais, la voilà couchée, immobile. Souffrant de plusieurs fractures au visage et au crâne, de lacérations et de brûlures, la jeune femme fixe les yeux d'un inconnu qui lui serre fort la main, Patrick. Quand il a vu s'effondrer, le Niçois aux cheveux longs s'est précipité au chevet de cet inconnu. Depuis, il la maintient en alerte et l'oblige à le regarder pour qu'elle évite de voir l'un des 5 ou 6 cadavres qui les entourent.
Ce dont je me souviens, c'est le visage de Patrick et qu'il me tenait les mains. C'est quelque chose dont je me souviens vraiment. Oui, le visage d'un étranger qui est devenu à présent un très bon ami.
Vautré sur la route, face au palais de la Méditerranée, le 19 tonnes est méconnaissable. Les pneus sont crevés, le pare-brise criblé de balles. En tout, l'attaque a duré 4 minutes et 17 secondes. Le temps pour le véhicule de parcourir un peu moins de 2 km. Pour l'arrêter, les quelques policiers présents n'ont pas hésité à vider leur chargeur. Mais ils ont dû essuyer quelques tirs du conducteur, heureusement. Celui-ci n'a touché personne. Parmi les fonctionnaires présents, on trouve Magali, la policière municipale. Postée devant le véhicule, 9 mm braqués sur le camion, la jeune femme échange un regard inquiet avec ses collègues de la brigade spécialisée de terrain. Parce que pour la première fois de sa carrière, elle vient d'utiliser son arme de service.
Moi, j'avance à la cabine et là, j'entends les 2-3 premiers coups de feu. Je me dis, ben là, faut y aller, quoi. Faut y aller, même si on doit aller mourir, mais il faut l'arrêter. Donc moi je m'avance à la cabine et je tire à plusieurs reprises par la fenêtre passager.
À terre, juste à côté, Franck, l'homme au scooter, reprend ses esprits. Sans armes ni uniforme, il vient d'accomplir un geste incroyable, presque héroïque. Quand il a vu le camion zigzaguer et les victimes se multiplier, il n'a pas réfléchi. Il a tout fait pour arrêter le carnage, quitte à risquer sa vie. Dans cette avenue de souffrance déployée, l'altruisme des uns côtoie l'opportunisme cruel des autres. Oui, parmi les gens qui déambulent sur la prom, une poignée arrive avec les pires intentions. Aveugle à la douleur, il pille tout ce qu'il trouve, téléphone, portefeuille, bijoux et même poupée d'enfant. Bientôt, les sirènes et les gyrophares font déguerpir les vautours. Pour les fonctionnaires qui débarquent sur les lieux, le choc est immense. Les victimes sont bien trop nombreuses pour qu'ils puissent assurer des transferts classiques. À la fois scène de crime longue de 1850 mètres et cimetière à ciel ouvert, la promenade des Anglais est transfigurée. Le plan heure sec est déclenché et plusieurs bâtiments sont réquisitionnés. Une boîte de nuit, appelée le High Club, ainsi que l'hôtel Negresco sont transformés en hôpitaux de campagne, tandis que le palais de la Méditerranée devient paix et de sécurité. Les blessés les plus graves sont envoyés dans les différents établissements de l'agglomération, comme l'hôpital Pasteur. Une médecin et une infirmière racontent au micro de France 3.
Ce qui a été vraiment très particulier, c'est le nombre. Et puis le contexte, parce qu'il y a des gens qui étaient quand même sur place. C'est devant nous, quoi. Je veux dire.
Ouais, j'étais avec mes deux enfants à côté du McDo. Et on est parti parce qu'il faisait froid, mais 10 minutes avant. Et une heure après, j'étais là.
Voilà.
J'étais ici toute la nuit jusqu'à 9h du matin avec mes collègues. Très dur. Ça aurait pu être mes enfants, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être.
À côté du camion, une question se pose pour les policiers. Y a-t-il une bombe à l'arrière ? Quand ils ouvrent la benne, soulagement. À l'intérieur, il n'y a ni explosif, ni complice en embuscade. En revanche, les fonctionnaires découvrent un objet improbable, un vélo. Après une inspection rapide et quelques coups d'œil furtifs dans la cabine du camion, un policier grimpe sur le marchepied et ouvre la porte. Il découvre alors, sur le plancher, le corps désarticulé de l'homme en noir, mort. À ses côtés se trouve son pistolet 7.65, encore chaud. Des cartouches, des armes factices, mais aussi un téléphone toujours en marche, ainsi qu'une carte bleue au nom de Mohamed Lawaj Boulel. Or, ce Tunisien de 31 ans, chauffeur-livreur de profession, n'est pas du tout identifié comme appartenant à la mouvance djihadiste. Absent des listes de fichiers S, connu de la justice pour quelques faits de droit commun, il aurait, d'après ceux qu'ils connaissent, une vie plutôt dissolue. Soirée alcoolisée, sexualité débridée, violence conjugale. Boulel semble plus porté sur les bars de nuit et les soirées salsa que sur les prêches violents des imams radicaux. Mais alors, dans ce cas, comment ce petit délinquant s'est-il transformé en terroriste solitaire ?
Il a transpercé toute la foule, il zigzaguait, donc il a voulu percuter, il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, c'était il voulait choper le maximum de personnes.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'attentat terroriste de Nice.
Affaires Sensibles.
Il y a un camion qui a renversé beaucoup de monde.
Et j'ai vu que les gens couraient tellement vite de l'autre côté de la promenade des Anglais.
J'ai vu l'horreur. J'ai vu le camion rentrer sur les gens par terre, enquis comme des quilles.
Fabrice Drouel.
Juillet 2016. Une dizaine d'heures après l'attaque, Nice se réveille abasourdi. Le bilan provisoire fait froid dans le dos. 84 morts et des centaines de blessés, dont 18 en urgence absolue. Des enfants, des retraités, des touristes, des Niçois. En s'attaquant à un événement populaire et familial, Boulel a emporté des gens de tout âge et de tout horizon. Tous fauchés par l'arbitraire de sa trajectoire. Et pour certains proches, comme Émilie, la nuit a été une véritable torture.
toute la nuit avec ma famille assis sur les marches du CUM, la cellule psychologique qui a été ouverte au centre universitaire méditerranéen qui se trouve sur la promenade des Anglais. Ah, et fatalité, le corps de mon fils était juste en face. Donc on a passé la nuit à regarder le drap blanc de l'autre côté du trottoir, à pas pouvoir s'en approcher.
Face à la gravité des faits, la cellule de crise de la section antiterroriste du parquet de Paris est activée. Les investigations sont confiées à la PJ et à la DGSI. Immédiatement, des perquisitions sont menées au domicile du suspect, route de Turin, et ses proches sont placés en garde à vue. Dès les premières heures de l'enquête, se dessine un portrait pour le moins chaotique du terroriste. Mari violent, père démissionnaire et dragueur lourd. Boulel ressemble plus à un fêtard immature et violent qu'à un soldat dévoué du califat. Alors, pour les enquêteurs, une question se pose, centrale. Comment ce truand sans envergure s'est-il tourné vers l'islamisme ? D'après les auditions de ses proches, Boulel a radicalement changé ses habitudes 2 semaines plus tôt. Oui, du jour au lendemain, il a arrêté de manger du porc, de boire de l'alcool et s'est même fait pousser la barbe. Radicalisation express ? Pour le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui vient d'arriver à Nice, c'est une hypothèse sérieuse.
L'individu qui a commis ce crime absolument abject, inqualifiable, n'était pas connu des services de renseignement, car il ne s'était pas distingué au cours des années passées, soit par des condamnations, soit par son activité, par une adhésion à l'idéologie islamiste radicale, et il semble qu'il se soit radicalisé très rapidement. Et par ailleurs, la modalité de la commission de son crime odieux est elle-même nouvelle, puisqu'il n'y a eu d'utilisation ni d'armes lourdes, même s'il était armé d'une arme de poing, ni d'explosifs.
Est-il seulement possible de devenir islamiste radical en 2 semaines ? Cette hypothèse, qui défie la logique, est très vite battue en brèche par l'exploitation du téléphone du chauffeur. À l'intérieur, on y voit des dizaines de photos de repérage prises des mois plus tôt, le 14 juillet 2015, puis le 15 août, mais aussi en juin 2016, lors de l'Euro de foot. En tout, 70 clichés de grands événements sur la promenade des Anglais qui ne laissent pas de place au doute. L'attentat a été prémédité, et depuis longtemps. Pourtant, à la différence du 13 novembre, l'attaque n'a pas été planifiée depuis une zone tenue par l'État islamique. Boulel l'a conçue seul. Poussé par des lectures en ligne, la propagande d'Al-Baghdadi, chef de l'organisation religio-criminelle Daesh. Ce que confirme le juge Marc Trévidic au micro de France 3.
C'est une grande nouveauté dans l'histoire de l'antiterrorisme, du terrorisme, cet appel à n'importe qui, y compris à des déséquilibrés. Dans le temps, Al-Qaïda triait sur le volet ses recrues. S'il y avait un dingue, il ne le prenait pas. C'est la grande différence. Ils avaient besoin de gens compétents, sérieux, qui allaient venir dans leur camp en Afghanistan, s'entraîner 1 an et demi, 2 ans, pour mener après une opération secrète. C'était des gens sérieux. L'État islamique a fait appel à tout le monde. Et avec une doctrine et une propagande minimum. C'est-à-dire un appel à la haine et à la violence. Quand vous faites appel à la haine et à la violence, que c'est le seul moteur, ben vous trouvez des gens dingues.
Grâce à l'analyse de son téléphone et de sa présence en ligne, les enquêteurs remontent l'histoire d'un type perdu, radicalisé à coups de conversations sur les réseaux sociaux et de vidéos d'exécution. Parmi les gens qui l'ont poussé à passer à l'acte, on peut citer Chokri Chafoud. Ce Tunisien de 37 ans est un peu le mentor de Boulel. Pendant des mois, il a profité de ses fragilités pour mieux l'encourager dans sa radicalisation à travers de nombreux messages sur Facebook. Face à cet échange, les policiers sont perplexes. Boulel est-il un homme instable qui a trouvé en l'islamisme une façon pseudo-rationnelle d'assouvir ses pulsions criminelles ? Possible. À y regarder de plus près, l'homme a fait preuve de rigueur et de sens pratique. Ainsi, pour financer la location du camion, il a d'abord tenté de contracter un prêt à la consommation, sans succès, avant de piocher dans ses économies. Ensuite, la semaine précédant l'attaque, il s'est organisé. Grâce aux images de vidéoprotection de la ville, on découvre que 3 jours avant l'attentat, donc le 11 juillet 2016, il a mis en place sur la promenade des Anglais une véritable répétition générale, au vu et au su de tous. Ainsi, sur les enregistrements, on découvre un camion de livraison semblable à tant d'autres qui roule et se gare à différents endroits de la prom. Mais certains détails ne trompent pas. À aucun moment, l'homme ne sort de la cabine pour livrer quoi que ce soit. Pire encore, une fois arrivé au bout de l'avenue, il fait demi-tour et il recommence. En tout, il remonte la voie de cette façon à 11 reprises, sans être repéré. Chauffeur, livreur de profession, titulaire du permis poids lourd, Boulel sait parfaitement se fondre dans la masse. D'ailleurs, le lendemain, 12 juillet, 2 jours avant l'attentat, il remet ça. Et cette fois, il roule même sur le trottoir et tente de passer sous une pergola. Mais le camion est trop haut, il doit renoncer. Face aux images, les policiers sont incrédules. Le trajet effectué lors de l'attaque a été méticuleusement planifié, comme l'explique Sandra Bertin, la responsable du centre de vidéosurveillance.
Le conducteur a été très malin puisqu'il a adopté l'attitude que va avoir un livreur en roulant déjà à une vitesse plus que réduite, normale dans le pire des cas, mais vraiment sur une vitesse très limitée. Lorsqu'il va monter sur le trottoir, eh bien, il va se mettre en compagnie d'autres livreurs qui effectuent effectivement des livraisons et il va faire semblant d'effectuer des livraisons.
Très vite, les enquêteurs réalisent que Boulel aurait pu faire encore plus de dégâts si cela est possible. Plusieurs indices, en effet, laissent croire que le terroriste voulait fuir une fois son attaque commise. La présence d'un vélo dans la benne, on l'a vu, mais aussi la découverte sur son corps de plusieurs couches de vêtements comme s'il voulait changer d'apparence l'atteste. Il y a aussi sur son téléphone plusieurs conversations troublantes, comme ce SMS envoyé à un certain Ramzi Arefa, 5 minutes avant l'attaque. Boulel y vante les mérites de son pistolet et demande à son interlocuteur de lui en trouver 5 de plus. Voulait-il fuir et poursuivre le carnage autrement? Même si des doutes subsistent encore sur ses intentions réelles, une chose est certaine. Pour commettre son attentat, Boulel a reçu l'aide de plusieurs petits truands locaux. Outre Ramzi Arefa et Chokri Chafroud, 6 personnes gravitant autour du terroriste sont identifiées, puis arrêtées. Mais peut-on parler pour autant de réseau? Le procureur de la République, François Molins, tente de répondre à cette question au micro de France 3.
Sur Nice, vous avez ce qu'on va dire, on va appeler le groupe des Maghrébins. C'est l'environnement immédiat de la voyage Boulel. Et puis vous avez le groupe des Albanais, avec entre les deux des gens qui font office d'interface et qui mettent certains en relation avec les autres pour se fournir des armes. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de réseau. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, des gens qui ont des positions bien ancrées dans la criminalité organisée et qui, par leurs activités criminelles, drogue, armes, sont en mesure de fournir ces choses-là. Effectivement, dans l'attentat de Nice, c'est ces deux groupes qui sont effectivement en liaison grâce à ces agents qui ont été identifiés, qui ont été mis en examen.
Après quelques jours d'investigation, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence, cet attentat ne ressemble à aucun autre. Entre le bilan dramatique et le profil inhabituel de Boulel et de ses contacts, l'attaque du 14 juillet montre que le terrorisme est en constante évolution. Des groupes paramilitaires revenus de Syrie jusqu'aux loups solitaires influencés par la propagande de l'État islamique, la menace peut désormais venir de partout. Dès lors, plusieurs questions délicates se posent. Pourquoi Boulel n'a-t-il pas été repéré avant? Et surtout, comment a-t-il pu rouler 2 kilomètres sans être inquiété? Pour de nombreux Niçois, la faute revient d'abord aux autorités qui n'ont pas pris la mesure de la menace.
Il s'est passé juste en face de chez nous.
Et c'était plein.
Et c'était plein, c'était bondé. Il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait personne à ce moment-là. Personne.
Moi j'y étais, j'ai pas vu de gendarmes, j'en ai vu 3-4. Que n'importe qui pouvait passer, n'importe quoi.
Que ça soit sur la route ou sur le trottoir il devait être encore plus sécurisé. Or ça n'a pas été le cas puisque le camion il est passé par le trottoir.
Comme on pouvait s'y attendre, les responsables politiques se renvoient la balle. Le maire de Nice, Christian Estrosi, critique les services de l'État et le manque de policiers nationaux sur le site, tandis que le gouvernement, lui, met en cause la faiblesse du dispositif déployé par la mairie. Du côté des policiers niçois, ils sont nombreux à penser que le ministère de l'Intérieur a failli. D'ailleurs, 10 jours après l'attentat, le 24 juillet 2016, une affaire dans l'affaire éclate. Dans une interview au JDD, la policière Sandra Bertin, la responsable du centre de vidéosurveillance, affirme avoir reçu des pressions du ministère pour modifier son rapport. Dans le document, elle pointe directement les services de la place Beauvau. Lui a-t-on vraiment demandé de minimiser les failles venues d'en haut ? Aujourd'hui encore, la vérité sur ce point n'est pas établie et personne ne semble vouloir assumer ses responsabilités. Pour de nombreux proches de victimes, c'est une nouvelle trahison. Et même si à Nice, la vie a repris son cours, même si les complices des terroristes ont fini par être jugés en 2022, l'attentat continue de hanter des milliers de victimes. Et parmi les questions lourdes que ce drame soulève, le traumatisme collectif aurait-il pu, aurait-il dû être évité ? Habitués que nous sommes à la catastrophe, on a parfois tendance à oublier que les attentats fleurissent aussi sur nos propres aveuglements ou déni de réalité.
Le deuil, franchement, je ne saurais pas vous dire si je l'ai fait ou pas. C'est ma sœur jumelle, enfin, c'est ma moitié, quoi. Et dire d'avoir fait le deuil au bout de 6 ans, je pense pas.
Moi, je l'ai abandonné sur cette promenade. Et ça, ça a été une culpabilité énorme, quoi.
Kenza a encore une tétine. Ne se sépare jamais de sa peluche. 6 ans après l'attentat et malgré son traitement, elle continue d'avoir des crises de panique.
C'est la première fois que j'ai marché sans appui.
Allez, c'est bien, c'est bien. Vous voyez qu'on y arrive.
Merci.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, dont nous parlons avec nos deux invités. Margot Steve, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service police-justice de France Info, vous avez suivi le procès de 2022, donc en première instance. David Di Giacomo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, journaliste également, vous avez longtemps vécu et travaillé à Nice. Vous êtes l'auteur du podcast France Info, Les Enfants du 14 juillet. Pourquoi avez-vous intitulé ce podcast Les Enfants du 14 juillet, Les Enfants?
Tout simplement par rapport au bilan terrible, puisque vous le disiez, 86 morts, mais sur les 86 morts, il y a 15 enfants, 15 mineurs, et ça, c'était inédit en France. Il y a aussi 42 autres enfants blessés et 525 qui seront reconnus comme des enfants touchés psychologiquement par cet attentat. Donc, évidemment, je me suis intéressé à cet aspect-là des enfants qui, sur cet attentat, ont été largement touchés, plus tous les enfants endeuillés qui ont pu perdre un proche, un parent, une tante, un oncle, etc.
Margot Steve, je vais vous donner la parole dès maintenant, mais puisque, David, vous étiez à Nice au moment du drame, comment avez-vous vécu cette soirée, puis la nuit qui a suivi ?
C'est toujours la même chose dans ce type d'attentat, un peu comme le 13 novembre, on se souvient de l'endroit où on était. Pour ma part, c'était le soir des vacances. On était donc un peu tranquille. Je devais aller sur la promenade avec ma fille d'1 an et demi et ma femme. Et puis, nos valises n'étaient pas prêtes pour partir tôt le lendemain matin en vacances. Donc, je suis resté chez moi. Mais sinon, vraiment, on aurait été sur la trajectoire du camion. Donc ça, voilà, c'est toujours quelque chose qui nous a marqué, hein, ma femme et moi, de se dire qu'on a eu cette chance de ne pas y aller. Ensuite, bon, bah, comme tout journaliste, je suis prévenu qu'il y a eu un camion qui a foncé sur la foule. On pense d'abord à un accident. Ouais. Et puis j'appelle le chef de la police qui me répond d'une voix blanche, presque en sanglots, et qui me dit juste « oui, c'est très grave », il raccroche. Donc bon, là, je comprends que c'est autre chose, qu'on n'est pas sur un accident avec quelques victimes. Et je me mets en route pour la radio, où on passe, évidemment, bah, la nuit à l'antenne. On rappelle tous les autres journalistes qui, eux, vont se trouver sur la promenade des Anglais. De mon côté, j'ai passé la nuit en studio. Une nuit difficile, puisque vous parliez du bilan qui s'alourdissait d'heure en heure. Donc, quand on égrène 20 morts, 30 morts, 50 morts, 70 morts, au fil de la nuit, en essayant aussi de savoir où sont ses proches. Mon père était sur la promenade des Anglais, des amis y étaient. Certains ne répondaient pas, d'autres répondaient. Tout se mélange. Et puis, dans le même temps, on recueille les témoignages. Beaucoup de gens appelaient la radio, avaient besoin d'expliquer ce qu'ils avaient vu, ce qui s'était passé, avec déjà cette question, comment ce camion avait pu arriver si facilement, j'allais dire, sur la promenade, ce 19 tonnes, comment il avait fait pour foncer à 90 km/h sur la prom.
Et donc cet attentat a eu un retentissement international, évidemment, surtout chez nos voisins italiens, le pays le plus proche de Nice, ils sont jetés en Italie. Ce jour-là, et quand je suis descendu dans la salle du petit déjeuner, les patrons n'osaient pas me parler, ils étaient livides, ils ont fini par me dire « encore una volta ». Et effectivement, c'était encore une fois, parce qu'on est en 2016, juste après les attentats de 2015. Margot Steven, désolé pour l'attente, je vous donne la parole maintenant, puisque vous avez assisté au procès. Qui est-il, ce Mohamed Lawaj Boulel? Je veux dire, quand on suit son parcours, on a du mal à comprendre son cheminement. Par exemple, il prend des photos de repérage un an avant, mais il adopte un mode de vie islamique seulement deux semaines avant. Selon vous, de quelle façon a mûri tout le projet d'attentat dans sa tête?
En fait, il y a un élément de la personnalité de Lawaj Boulel qui ressort et qui explique en fait quelque part ce parcours, c'est son ultra-violence. C'est un dès l'enfance en fait, il grandit en Tunisie, c'est l'aîné d'une famille de 10 enfants et ses parents sont venus témoigner au procès, expliquent que ce petit garçon, il est violent très vite son père explique qu'il l'emmène chez le psychologue à l'adolescence parce que il rentre à la maison et son fils a cassé toutes les vitres et la porte de leur maison. On est sur ce profil-là d'ultra-violence et Lawaj Boulel, on va retrouver dans son ordinateur en fait, d'abord des vidéos violentes. Il y a des vidéos de cadavres. Il tape horrible accident, violent, mortel.
Ah, mais pas forcément politique.
Non, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui est fasciné par cette violence. Il y a aussi énormément de vidéos pornographiques ultra violentes. Donc, c'est peut-être cet aspect-là de la personnalité, en fait, qui est clair. C'est-à-dire, les enquêteurs vont le dire au procès. Sans doute qu'il est arrivé à la radicalisation par la violence. C'est-à-dire que ce qu'il regarde, c'est des vidéos de décapitation plus que des prêches. Et c'est cet élément-là qui permet de comprendre ce cheminement.
Alors, vous avez suivi le procès des complices du terroriste qui s'est tenu en 2022, les complices également. Hein. Et on a évoqué le rôle de deux d'entre eux. Qui sont les autres?
Alors juste une petite précision, on parle pas de complices en fait en termes juridiques, c'est-à-dire qu'ils sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes, et pas pour complicité.
D'accord.
C'est important de le préciser. Il y a deux principaux accusés, Mohamed Graieb et Chokri Chafrout, qui sont des amis,
qu'on a cité,
voilà, qui sont des amis de Lawaj Boulel et qui vont être condamnés en première instance et en appel à 18 ans de réclusion criminelle. Eux, on leur reproche en fait d'avoir vu la radicalisation, même express, mais avec des signes faibles qui sont arrivés au fur et à mesure du temps, d'avoir vu cette radicalisation et de ne pas l'avoir dénoncée. Et puis, on a une succession d'éléments qui s'accumulent, c'est-à-dire qu'on a des photos et des vidéos d'eux dans le camion avec Lawaj Boulel quelques jours avant. On a des échanges de SMS un peu surprenants où on parle de camion, on parle de Charlie, etc. Et on les soupçonne aussi d'avoir potentiellement aidé à trouver une arme.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Non, mais c'est vrai que c'est très perturbant, hein, puisqu'effectivement, pour les victimes, l'idée, c'était de se dire qu'il avait eu des complices. Et comme le disait Margot, finalement, aucune complicité n'a été reconnue par la justice. Donc c'est ce que vous disiez très bien, c'est-à-dire qu'il a commis cet acte tout seul. Et c'est ce qui est d'autant plus frappant, parce qu'il fait 86 morts, 450 blessés, tout seul. Il n'y a pas de complice. Alors, les attentats du 13 novembre, certes, c'est un bilan plus lourd, mais c'est un groupe terroriste qui s'est entraîné avant, qui arrive de l'extérieur, c'est un attentat projeté, enfin, ça n'a rien à voir. Là, c'est la figure, entre guillemets, parce que ce terme du loup solitaire, mais voyez, qui se radicalise, comme le disait Margot, très vite, en 15 jours, et qui va commettre cet acte. Alors, certes, il a été aidé pour la fourniture d'armes. Certes, il y a ces messages troublants, mais ça n'en fait pas des complices d'assassinat pour autant. En tout cas, aux yeux de la justice.
Alors, est-ce qu'on peut considérer, Margot Steve, que c'est à partir de l'attentat de Nice qu'on a pris conscience de cette forme de terrorisme au nom d'eux, hein, sans être commandité directement par Daesh? C'est au nom de Daesh, au nom de l'islamisme.
Bien, ce que vont expliquer les enquêteurs, c'est ils vont être surpris parce que l'organisation État islamique va revendiquer l'attentat dès le 16 juillet, mais on ne retrouve aucun lien entre
Lawaj Boulel. Parce qu'effectivement, Daesh, pour le coup, va revendiquer un attentat commis par quelqu'un, mais qui n'a pas été commandité par Daesh, c'est ça en gros?
Oui, en gros, c'est Daesh revendique cet attentat, mais il n'y a aucun lien entre Lawaj Boulel et l'État islamique. Et en fait, ce qu'expliquent les enquêteurs, c'est ce qu'on appelle une revendication opportuniste. C'est-à-dire, il y a cet acte-là, et Daesh va dire... Va le prendre comme l'un des siens, alors qu'il n'y a aucune préparation, aucun entraînement de Lawaj Boulel qui va faire ça vraiment dans son coin.
Et est-ce qu'on peut dire que l'attentat de Nice, ça a été vraiment cette bascule-là?
Alors, cette bascule, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première fois qu'il y a une revendication opportuniste par l'État islamique.
Oui, donc on peut parler de tournant.
Voilà, et on se pose la question sur son profil, c'est-à-dire qu'il y a aussi des victimes qui le voient plus comme une tuerie de masse que comme un attentat. Voilà, c'est des appréciations de chacun.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, dont nous parlons avec David Di Giacomo et Margot Steve. David Di Giacomo, on a, pendant le récit, soulevé plusieurs questions importantes. La radicalisation, on en a parlé. Maintenant, le dispositif de sécurité. Et puis cette polémique qui met mal à l'aise entre l'État et la mairie. C'est pas lui, c'est nous. C'est pas nous, c'est lui. Bon.
Polémique qui survient très vite. Et ça a fait beaucoup de mal aux victimes, puisqu'elles n'ont pas ressenti le même élan d'unité, comme c'était le cas après les attaques du 13 novembre. Mais en effet, il y a eu ces questions sur le dispositif de sécurité, qui sont toujours actuelles aujourd'hui, puisqu'une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide et blessures involontaires. L'instruction est toujours en cours à Marseille. Il n'y a pas de mise en examen, mais il y a 4 personnes qui sont placées sous le statut de témoin assisté. Le maire de Nice, Christian Estrosi, le préfet et le directeur de cabinet du préfet de l'époque, pour faire simple. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc, j'étais à Nice, l'Euro de foot venait de se terminer en 2016, 4 jours avant. Pour cet Euro, les craintes d'attentat étaient énormes, puisque c'était 8 mois après les attentats du 13 novembre. Et il y avait notamment des dispositifs anti-voitures bélier qui avaient été prévus pour les matchs que Nice avait accueillis. Donc, quand les spectateurs se rendaient au stade, il était clairement impossible de faire une attaque par une voiture bélier. Or, ça n'a pas du tout été prévu pour le 14 juillet. Pourquoi ? Parce que, lors des réunions préparatoires, on n'évoquait pas un éventuel risque d'attaque de ce type. Mais toutes les victimes, les milliers de victimes, elles ne le comprennent pas. Elles se disent pourquoi, pour l'euro, on avait un dispositif, on va dire, infranchissable, et pourquoi le 14 juillet, ça n'était pas le cas. Donc, on ne peut pas refaire le match, mais c'est une question qui se pose. Et par ailleurs, les policiers me le disaient, c'est vrai qu'ils avaient l'impression d'avoir réussi leur mission de l'été. L'euro s'était bien passé, hormis la défaite de la France en finale. Mais pour le reste, c'était un peu le relâchement, et le 14 juillet, c'était quelque chose qui revenait chaque année.
C'est
donc,
ça, voilà. C'était pas
exceptionnel.
Voilà.
Voilà.
On en a parlé, Margot Steve, au procès de cet aspect-là, oui, j'imagine, évidemment. Mais comment en a-t-on parlé ?
Oui, on en a parlé aussi beaucoup porté par les parties civiles et leurs avocats. Le président de la Cour l'avait dit assez rapidement, c'est pas le sujet, en fait. On n'est pas là pour juger de la sécurité, des responsabilités de l'État ou de la mairie, mais de fait, c'est ressorti dans le débat très souvent. Et notamment, quand il y a eu l'audition de Christian Estrosi, je me souviens, la salle de procès était comble. Il y avait des gens, des parties civiles absolument partout qui venaient l'écouter. Et même chose, le président de la Cour dit « c'est pas le sujet, on va pas faire le procès de M. Estrosi ». De fait, même lui a posé les questions qui fâchent parce que en fait, les parties civiles étaient là pour l'entendre, il y avait besoin d'explications alors qu'une instruction était en cours, mais il y avait besoin de réponses, c'était vraiment quelque chose d'essentiel.
Est-ce qu'il a rejeté la responsabilité sur l'État, sur la place Beauvau ?
Oui, très clairement, il y a eu ce jeu-là, puisque il y a eu Christian Estrosi, il y a eu les responsables de l'État à l'époque, François Hollande notamment, et en fait, oui, ils se renvoyaient beaucoup la balle. À noter quand même que Christian Estrosi a été le seul à la barre à ne reconnaître aucune défaillance de la ville de Nice. Au niveau de l'État, on a lâché le mot défaillance, en tout cas en disant... il y a eu des erreurs. S'il y a eu un attentat, c'est qu'il y a eu des erreurs. Pour Christian Estrosi, la ville avait fait ce qu'il fallait.
Alors, un procès est important pour les victimes, évidemment, représentées par les parties civiles. Ça a été... libération de la parole, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, la parole était de mise, là, enfin, pour les victimes.
Oui, il y a eu 5 semaines d'audition de parties civiles, 270 qui sont venus... témoigner, alors avec des gens endeuillés, des gens blessés, et avec des récits extrêmement forts, d'autant plus que un certain nombre de parties civiles sont venus à la barre en disant « En fait, moi, j'ai jamais parlé de ce que j'ai vécu ce soir-là. J'en ai jamais parlé à ma famille, j'en ai jamais parlé à mes proches, c'est trop douloureux. » Y compris des familles qui étaient ensemble ce soir-là, mais qui n'ont jamais réussi à mettre des mots, en fait, et à
verbaliser.
Et à procès aussi, pour certaines, a été l'occasion de mettre des mots, justement.
David Di Giacomo, sur ce point-là ?
Sur ce point-là, moi j'ai le souvenir d'enfants que j'ai interviewés pour mon podcast, et l'un d'eux, un garçon d'une dizaine d'années, disait « Maintenant qu'il est mort, comment on va savoir pourquoi il nous a fait ça ?» ou un autre, est-ce que ce monsieur, il n'était pas bien? Est-ce qu'il était fou? Donc tous ces enfants, ils avaient besoin de comprendre ce qui s'était passé, et c'était difficile de leur donner des réponses avec un auteur de l'attaque neutralisé et donc mort. Un autre me disait, je me souviens bien, on a eu beaucoup de chance de survivre parce que normalement, dans la vie, quand tu te fais écraser par un camion, normalement, tu meurs. Voilà, donc tout ça, c'est des paroles d'enfants d'une dizaine, douzaine d'années qui m'ont vraiment marqué parce qu'avec leurs mots, ils se posaient des questions essentielles finalement.
Alors, vous êtes journaliste, mais à l'époque, vous êtes niçois également, habitant de Nice, donc vous pouvez légitimement avoir un sentiment sur le dispositif de sécurité en fonction de ce que vous avez vu, vous.
C'est ce que je vous disais. Moi, j'étais pas au feu d'artifice, mais effectivement, il y avait un relâchement.
Donc, vous le confirmez, vous.
Ben, en tout cas, voilà, c'était pas le dispositif de sécurité qui était en place pour l'euro. Ça n'avait pas été préparé comme ça. La menace n'était sans doute pas jugée la même, mais c'était différent.
Et alors, comment on vit ce drame à Nice? Parce qu'après tout, nous sommes en 2025. Ça ne fait que 10 ans. Hein. Les enfants qui ont été touchés, qui avaient 6-7 ans, sont des ados aujourd'hui. Pas plus que des ados. Donc c'est récent. C'est encore dans les esprits, j'imagine.
Oui, c'est encore dans les esprits. Et puis Nice a été frappé une seconde fois par attentat il y a 4 ans. L'attentat de la Basilique qui a fait 3 morts. Donc c'est difficile pour les Niçois. Certains ne peuvent plus passer sur la promenade des Anglais. Sont obligés de faire des détours, notamment ceux qui ont été touchés, hein, qui ont perdu un proche. C'est pas facile parce que c'est un axe central à Nice. D'autres, à l'inverse, ont tenu à y retourner très vite. Moi, c'était mon cas. J'avais l'habitude de courir sur la promenade et en se disant, bah, la vie continue, bah oui, on va retourner courir sur cette prom. Pas question de ne pas y aller, mais c'est plus facile quand on n'a pas été victime. En tout cas, la ville a quand même été meurtrie, évidemment. Puisqu'après Paris, c'est la ville qui a été le plus touchée par les attentats, entre celui de 2016, celui de la Basilique il y a 4 ans. Elle a évolué aussi, il y a désormais maintenant des barrières anti-intrusion tout au long de la promenade des Anglais, qui sont discrètes, mais qui sont là, et qui sont aussi les traces de ce qui s'est passé.
Margot Steve, il y a eu des condamnations. Est-ce que vous avez le sentiment que les condamnations ont apaisé tout ou partie du malaise des victimes ou pas? Parce oui. qu'il y a le évidemment, le principal coupable a été tué. Donc, enfin, il n'est pas là, il y a peut-être un regret. Comment les victimes ont-elles ressenti ces jugements?
C'est toujours compliqué de parler pour toutes les parties civiles, mais celles qu'on a vues au procès, il y avait un sentiment assez mitigé, parce que des condamnations qui ont été lourdes, mais je me souviens d'une profonde incompréhension. La peine encourue maximale était de 20 ans de réclusion et les peines prononcées étaient 18 ans. Et je me souviens de ces parties civiles qui disaient « Mais à combien de morts faut-il pour qu'on donne la peine maximale ?» Il y avait quand même une colère et on sentait très bien que non, l'apaisement il n'était pas là et que la blessure et la colère étaient encore très présentes.
Bien, merci infiniment Margot Steve et David Di Giacomo. Je rappelle le titre de votre podcast hein, France Info, « Les enfants du 14 juillet ». Merci, au revoir.
Merci.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat de Nice, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.